Merci, c'est un honneur pour nous d'inaugurer donc ce séminaire transversal élargi à l'ensemble du laboratoire et à l'ensemble de CITER. Donc la question du patrimoine, alors la question du patrimoine elle est dans CITER, on a déjà parlé, elle est déjà affichée à différents niveaux. Ce qu'on va essayer de rappeler ici, c'est d'abord un certain nombre de positions qui nous sont communes. Alors nous, c'est la façon dont la question du patrimoine et en tout cas de la connexion entre patrimoine et l'action publique urbaine est traitée essentiellement dans l'équipe COST. En tout cas, les travaux dont on va parler ici sont plutôt liés à la question de l'équipe COST. Et j'appuie quand j'en ai besoin. Et donc, d'abord commencer sur un certain nombre de positions. Qui vise à considérer sur la question du patrimoine, et c'est peut-être les choses qui sont les plus intéressantes ici à discuter, hein, c'est peut-être les questions de position. Et j'enlève juste pour la publicité, et je fréquente aujourd'hui beaucoup de transitionneurs qui n'accepteraient pas qu'il y ait une bouteille en plastique sur la table. Donc je fais attention à ce qui va être projeté. Donc, valeurs et cadres d'action, merci pour la bouteille. Donc, c'est l'idée d'une part, mais qui est peut-être pas partagée par tous, et on conçoit qu'elle n'est pas forcément partagée par tous, que le regard qu'on porte sur le patrimoine est un regard externe. Donc, on a eu un débat sur cette question-là, c'est-à-dire c'est un regard qui s'intéresse au processus de patrimonialisation qu'on pourrait opposer à un regard interne, qui est celui qui cherche à la caractérisation ou la valorisation du patrimoine. Donc le regard externe sur la question patrimoniale, il s'intéresse à observer le processus de patrimonialisation, il s'intéresse aux modalités de construction politique et sociale de la question patrimoniale. Et puis donc une approche qui considère que le patrimoine est en même temps une valeur présente dans la société et un cadre pour l'action publique, c'est-à-dire pas simplement un domaine d'action publique, pas simplement une partie de la protection ou de politique publique. Et donc, on va s'intéresser aux politiques, aux façons dont les politiques publiques se saisissent de la question patrimoniale, mais aussi à la façon dont cette question patrimoniale est en débat dans la société sur les modalités de la patrimonialisation ou sur les effets produits par cette question de la patrimonialisation. Donc un intérêt pour l'analyse des conflits, des controverses patrimoniales, dont on parlera peu ici, mais aussi un intérêt pour la prise en compte de l'action publique patrimoniale, la prise au sérieux de ce qu'on appelle ici qualification patrimoniale, qui est aussi une qualification juridique de certains éléments du patrimoine, la prise au sérieux des débats autour du droit et de sa forme de mise en œuvre et de sa forme de territorialisation, et donc questionner, c'est ce qu'on présentera ici, donc cette idée d'une qualification de l'espace et d'une qualification patrimoniale de l'espace. Et aussi d'ailleurs, mais on le présentera peu ici, une prise au sérieux d'une comparaison internationale sur la façon dont ces questions existent. Donc cette intervention se focalisera donc spécifiquement à partir de travaux en cours, à partir des travaux en cours dans une ANR dont on vous présentera les choses, à partir de travaux qu'on a pu réaliser ensemble ou séparément sur ces questions, donc sera focalisé sur la question des effets de la généralisation des qualifications patrimoniales de l'espace. Donc en premier point, Mathieu présentera quelques éléments sur la spécificité, la genèse et l'évolution de ces zonages patrimoniaux. Ce qu'on appelle qualification patrimoniale de l'espace, c'est ici donc des zonages. On présentera rapidement 5 hypothèses d'interprétation sur les effets de ces qualifications patrimoniales de l'espace. Et puis, rapidement, l'approche par les instruments et les contextes d'action. Et puis, on essaiera pour le débat d'ouvrir quelques questions. Et c'est peut-être encore une fois la chose la plus intéressante ici sur le devenir des espaces patrimoniaux. Donc, on part bien de cette idée que la question du patrimoine, elle concerne, si on est sur le patrimoine bâti, elle concernerait d'abord des biens, d'abord des monuments, d'abord des éléments, et ensuite elle s'élargit à la question de l'espace. Et Mathieu va nous en dire plus.
Sur la première partie, plutôt rapidement, juste rappeler que l'action publique patrimoniale, elle est née à la fin du 19e siècle et qu'elle était au départ centrée sur la protection ponctuelle des monuments historiques et que donc on a vécu en fait une émancipation spatiale de cette question puisque au fur et à mesure on a pris en compte le territoire patrimonial dans son ensemble, donc la prise en compte d'espace à valeur patrimoniale. Donc 1913, effectivement, une loi sur les monuments historiques hein, qui est très connue, sur laquelle on va pas beaucoup revenir. 1930 ensuite, c'est un peu le sens de cette diapositive, donc on prend en compte des espaces un peu plus larges, espaces patrimoniaux, donc c'est la création de zonages de protection du patrimoine naturel, donc les sites classés et sites inscrits. Qu'on a néanmoins détourné d'ailleurs de son usage primitif hein. Ce qu'on voit ici par exemple sur la carte à Tours, c'est qu'on classe des sites urbains alors qu'à la base la procédure est plutôt prévue pour classer des sites naturels, donc jardins, places, squares ou même des sites urbains comme à Orléans où on a inscrit l'ensemble du centre-ville dans les années 40 en tant que site inscrit. En 1943 ensuite, donc c'est après, la loi sur les abords des monuments historiques qui institue donc un périmètre de 500 mètres de rayon autour de chaque monument historique pour non pas protéger l'espace urbain mais pour protéger le monument historique de l'évolution de cet espace. C'est-à-dire que l'idée de cette loi-là, c'est de faire attention à l'évolution des choses dans ce périmètre de 500 mètres autour du monument historique pour que l'évolution ne dénature pas le monument historique. Et là aussi, quand on travaille un peu sur les outils de l'action publique patrimoniale, on voit comment les outils sont réutilisés par les acteurs, détournés de leur objectif primitif, puisqu'il n'est pas rare, et même très courant, que à l'intérieur de ces périmètres de 500 mètres, les architectes des bâtiments de France, qui sont donc les fonctionnaires d'État qui gèrent les autorisations d'urbanisme pour le compte de l'État, donc il n'est pas rare qu'ils donnent des avis non pas par rapport au monument mais simplement des avis qui visent à encadrer l'évolution de l'espace urbain en oubliant parfois le fait qu'on est censé justifier cette position par rapport au monument historique. Donc on a fait beaucoup de critiques par rapport à ces abords de monuments historiques, donc qui couvrent 3,5 millions d'hectares environ, puisque c'est 43 000 monuments historiques qui sont concernés par ces abords. Donc 6% du territoire national, hein, donc c'est quand même quelque chose de très important. Plusieurs critiques, dont une critique sur leurs critères purement géométriques, puisque un rayon de 500 mètres n'est pas adapté à la réalité des territoires, puisque tantôt c'est beaucoup plus grand, comme la cathédrale de Chartres par exemple, où 500 mètres ne suffisent pas à protéger la visibilité, et tantôt c'est disproportionné quand c'est une borne kilométrique Michelin qui est inscrite monument historique et qu'on a 500 mètres de rayon autour, c'est assez délicat. Donc on verra aussi que c'est quelque chose qui a été partiellement réglé avec une récente loi, donc la loi LCAP, Liberté, Création, Architecture, Patrimoine, en 2016, puisqu'aujourd'hui on parle de périmètres délimités des abords qui prennent en compte, dès l'inscription ou le classement du monument historique, un vrai périmètre cohérent, en tout cas adapté selon des études de terrain. Donc là, oui, il y a une carte, par exemple, du cumul de ces périmètres de protection sur Orléans qui montre bien qu'il couvre l'intégralité du centre-ville et que potentiellement, on peut donc avoir l'intervention de l'architecte des bâtiments de France à l'intérieur de ce zonage patrimonial, qui est un zonage mais qui n'est pas une territorialisation du patrimoine parce que c'est vraiment un zonage automatique, sans étude préalable, sans délimitation claire. On est vraiment sur du géométrique, mais qui permet quand même de gérer les espaces urbains. En 1962 ensuite, donc c'est voilà la diapo d'après, on consacre vraiment cette notion du patrimoine urbain au travers des secteurs sauvegardés, donc par la loi Malraux. Donc là on est sur un zonage qui est très contraignant puisqu'il limite fortement le droit de propriété privée, puisque non seulement on peut avoir des prescriptions en termes de démolition de bâti, mais aussi, et cas inédit, c'est le seul document d'urbanisme qui le permet, on peut gérer l'intérieur des immeubles, donc entrer chez les gens et leur imposer de conserver leur cheminée 15e, leur parquet 12e, même s'ils veulent agrandir ou autre chose. Donc ce secteur sauvegardé, lui, ce zonage-là, vient se caractériser par un document d'urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui, en lieu et place des plans locaux d'urbanisme, doit pouvoir gérer l'ensemble des problématiques urbaines. C'est-à-dire que En termes de superposition de zonage, ce qui est une thématique qui revient assez souvent, lorsqu'on a un secteur sauvegardé, on n'a pas de superposition du PLU à la place. C'est-à-dire que dans le PLU, on a un espace vide, un espace blanc, puisque le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé vient prendre le relais. Sauf que l'approbation de ce document d'urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, prend du temps, même prend beaucoup de temps, en moyenne 10 ans. Ça, c'est la 10-15 ans, mais c'est la moyenne positive, et peut atteindre jusqu'à plus de 39 ans. Et donc là, on peut voir quand même quelque part l'échec d'une planification patrimoniale, dans la mesure où pendant 39 ans, on a un zonage qui est créé, qui est délimité, mais sans règlement, sans document de gestion à l'intérieur. Et dans les secteurs sauvegardés, justement, vous l'aurez compris, la délimitation de la zone patrimoniale précède la connaissance. C'est-à-dire qu'avant d'engager des études patrimoniales qui doivent fonder l'intérêt de ce secteur sauvegardé, on commence par le délimiter, on fait les études ensuite. Ce qui veut dire qu'on prend en compte pour délimiter ce zonage patrimonial des conceptions en vogue sur le patrimoine. Et dans les années 60, par exemple, on délimitait un secteur sauvegardé sur du patrimoine Renaissance, Moyen-Âge, rarement au-delà du 18e siècle. C'est-à-dire tout le patrimoine 19e et 20e n'était pas pris en considération dans les secteurs sauvegardés, ce qui est venu plus tard. On a eu une vague d'extension de secteurs sauvegardés dans les années 90-2000, qui là, et c'est le cas à Tours, qui là vient prendre en compte le patrimoine 19e et 20e. Ça, je ne vais pas le dire. Ensuite, en 83, on met en place les ZPPAU, donc les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, puis on y adjoint le P de paysage en 93. Alors j'ai mis ZPPIP et AVAP parce qu'elles deviennent en 2010 des aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ce qui sur le fond ne change pas grand-chose, il faut bien le dire, qui est là un document intéressant parce qu'il est partiellement décentralisé. Ça veut dire que la définition du zonage se fait en concertation entre la collectivité locale et les services de l'État, en particulier l'architecte des bâtiments de France. Là, contrairement au secteur sauvegardé, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on délimite la zone après les études. Donc on commence par étudier l'épaisseur historique de la ville et ensuite on décide quel est le zonage cohérent pour protéger le patrimoine ou les patrimoines, puisqu'on prend en compte aussi les paysages de la ville. Donc ça, c'est une procédure, un outil qui a eu beaucoup de succès. On en a un peu plus de 700 en France aujourd'hui, alors qu'on reste sur une centaine de secteurs sauvegardés, par exemple. Donc ça a eu beaucoup plus de succès parce que c'est plus simple à mettre en œuvre, qu'on est sur des procédures qui sont moins longues. On est autour de 6 ans à peu près pour ces documents-là. Et puis on rentre pas dans les immeubles. On est à l'échelle de l'îlot, alors que le secteur sauvegardé, on est à l'échelle de la parcelle. On est vraiment beaucoup plus précis. Autre document que Pascal Plancher, qui est professeur de droit public, lui déclarait comme un document de troisième type, une protection de troisième type, c'est le plan d'occupation des sols, puis le plan local d'urbanisme. Je vais avoir une petite diapo là-dessus aussi. Non, c'est même pas, je n'ai pas de diapo. Voilà, donc qu'on appelait des POS fins, donc des plans d'occupation des sols fins, ou des PLU patrimoniaux, mais je reviendrai sur cette question, qui eux peuvent prendre en compte le patrimoine à travers un article du code de l'urbanisme, le L151-19, qui permet d'identifier, localiser des éléments du paysage ou des quartiers, des îlots, des immeubles bâtis ou non, etc., pour assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Et donc ces post-fins et ces PLU patrimoniaux, et donc là c'est la diapo d'après, ont été au cœur d'une réforme des espaces protégés, donc avec la loi LCAP, Liberté, Création, Architecture, Patrimoine, puisque le projet initial de cette loi était de faire du plan local d'urbanisme le principal outil de gestion du patrimoine urbain, à la place des AVAP, ZPPUP et des secteurs sauvegardés. Or, lors des débats autour de cette loi LCAP, on a vu comment les élus sont montés au créneau et ont montré leur grand attachement aux zonages patrimoniaux, qui pourtant sont très critiqués par ailleurs par les élus eux-mêmes, notamment parfois. Mais ils ont quand même tenu à les sauver, pardon. Et ils y sont d'ailleurs parvenus, puisque au final, la loi LCAP entérine bien un changement d'appellation, puisque tous ces dispositifs-là s'appellent maintenant des sites patrimoniaux remarquables. Donc il ne faut pas dire SPR, puisque l'objectif c'est aussi une simplification vis-à-vis de l'habitant, donc on dit bien des sites patrimoniaux remarquables. Et on a toujours des différents degrés de protection qui perdurent, donc des plans de sauvegarde et de mise en valeur ou des PVAP, des plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine qui ont remplacé les ZPPIP et les AVAP. Donc autrement dit, cette loi-là, la montagne accouche d'une souris. Il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui change. Sauf que on était au départ sur un processus qui visait une décentralisation de l'action publique patrimoniale, c'est-à-dire laisser plus de champs aux collectivités territoriales pour prendre en compte le patrimoine. C'était notamment le souhait de faire du PLU le principal outil de gestion. Et finalement, ça s'est traduit, après les débats, par une recentralisation de l'action publique patrimoniale, au moins en ce qui concerne la délimitation des périmètres. Et justement, l'UMR, CITER, s'est engagé dans un programme de recherche qui traite des PLU patrimoniaux et qui s'intéresse à dresser le profil de ce que les praticiens sont les premiers à appeler comme un PLU patrimonial. C'est une espèce d'objet non identifié du droit, puisque ça n'existe pas juridiquement. On ne peut pas dire juridiquement qu'il y a un PLU qui soit patrimonial. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et donc, on cherche à identifier, à évaluer les potentialités du plan local d'urbanisme en matière d'identification et de protection des patrimoines, en regardant s'il y a un degré de différenciation spatiale des politiques patrimoniales à travers ce plan local d'urbanisme, et d'essayer de déterminer aussi des complémentarités potentielles entre ce PLU et d'autres outils que j'ai présentés avant, donc secteur sauvegardé ou ZPPIP, AVAP. Et donc pour ce faire, je vais très vite, mais on a élaboré une stratégie de recherche en deux temps. Un premier temps qui est l'analyse des PLU des 20 plus grandes villes de France, pour voir un peu comment tout cela se comporte, à travers une grille d'analyse dédiée qu'on a créée entre géographes et juristes, puisque c'est un programme de recherche qui réunit principalement des géographes et des juristes. Et puis une analyse plus qualitative de certains terrains qui ne sont pas forcément les 20 plus grandes villes de France. On a aussi essayé d'aller voir dans le milieu rural ce qui se passait, parce qu'on n'a quand même pas la même ingénierie, avec des entretiens et une série d'écritures de cas. Et donc les premiers constats ou premiers résultats auxquels on arrive, c'est que d'abord on observe une multiplication de ces plans locaux d'urbanisme à vocation ou à ambition patrimoniale. L'analyse donc des terrains qu'on a déjà effectués, elle relève que finalement, les PLU qui cherchent à identifier le patrimoine, à plusieurs degrés bien sûr, sont assez nombreux. Dans tous les cas qu'on a analysés, il y a assez peu de cas qui n'identifient pas au moins une catégorie de patrimoine, qui soit naturelle ou qui soit bâti. Ensuite, on a aussi observé un clivage des collectivités dans l'emploi du terme de PLU patrimonial. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui mettent en avant la dimension patrimoniale de leur plan local d'urbanisme, alors que quand on observe, qu'on lit le règlement, finalement, il y a assez peu de choses prescriptives sur la protection du patrimoine. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a du patrimoine, mais en même temps, le règlement autorise sa démolition. Donc, quelque part, c'est pas vraiment une protection, si déjà on peut le démolir. Et à l'inverse, il y a des collectivités qui ne mettent pas du tout en avant cette dimension patrimoniale, alors qu'elles vont avoir un règlement qui va vraiment mettre en avant le patrimoine et éviter qu'on puisse en faire n'importe quoi. On a bien sûr observé je dis bien sûr parce que plus on y travaille, plus c'est évident, une disproportion méthodologique et de moyens entre ce qui relève des métropoles et ce qui relève des petites communes. Donc ça fait vraiment appel à la question de l'ingénierie territoriale. Et on voit bien qu'il y a de grands écarts de méthodologie sur l'identification des patrimoines en fonction des moyens financiers et humains. Quand on a l'ingénierie ou qu'on fait appel à une agence d'urbanisme ou un CAUE qui est en capacité de le faire, on peut avoir une identification des patrimoines assez fiable et assez poussée. À l'inverse, quand on est dans des communes très rurales sans ingénierie, c'est beaucoup plus compliqué et on fait souvent appel ou aux habitants directement ou à la connaissance du territoire par les élus locaux. On a d'autres cas en tout cas sur cette méthodologie. Un aspect aussi qui n'était pas présent au départ, enfin qui était moins présent au départ du programme de recherche, mais qui s'intensifie de plus en plus, c'est la montée en puissance de l'intercommunalité. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une grande manœuvre territoriale de recomposition des territoires, de fusion et d'obligation de créer des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Ce principe de PLUI reconfigure totalement les réseaux d'acteurs et la façon dont on prend en compte le patrimoine, ne serait-ce que parce que le patrimoine intéressant qui est valable à l'échelle d'une commune ne l'est peut-être plus à l'échelle d'une intercommunalité. Ce qui relève par exemple des derniers vestiges d'un type de bâtiment dans la commune de La Riche à l'échelle de l'agglomération n'est peut-être pas intéressant parce qu'il y en a partout à Joué-les-Tours ou à Saint-Pierre-des-Corps. Donc ça pose la question de savoir ce qu'on prend en compte ou ce qu'on ne prend pas en compte dans ce PLUI. Et enfin, un des derniers résultats, c'est la fréquente disproportion entre ce qui relève de l'identification des patrimoines dans les documents non opposables, juridiquement, et dans les documents opposables. C'est-à-dire que fréquemment, dans les documents non opposables, c'est-à-dire le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable, on peut mettre beaucoup de patrimoine dedans. C'est pas un problème. C'est même plutôt facile et on peut même créer des axes très forts autour du patrimoine et de l'identité urbaine. Mais dès lors qu'on entre dans les documents opposables, c'est-à-dire le règlement et le zonage du PLU en tant que tel, on n'en retient qu'une partie. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Et finalement, on voit qu'il y a un filtrage qui est opéré et une hiérarchisation des patrimoines plus ou moins importants à prendre en compte. Donc ces différents outils-là qu'on a présentés sommairement montrent bien l'évolution de la notion du concept de patrimoine et notamment l'emprise de plus en plus croissante qu'il occupe, y compris dans les documents d'urbanisme de droit commun, comme les plans locaux d'urbanisme. Et finalement, la généralisation des zonages patrimoniaux tend bien à devenir la règle, quelque part, parce que si on regarde une carte de France des zonages patrimoniaux spécifiques, c'est-à-dire les secteurs sauvegardés, les ZPPUP ou les AVAP, on voit que toutes les villes importantes, en tout cas les grandes villes et les villes moyennes, sont couvertes par ce type de document d'urbanisme ou de servitude d'utilité publique. Sans parler des abords dont on a parlé tout à l'heure, qui couvrent 6% du territoire national. Et je vais laisser Patrice continuer sur 5 hypothèses, pour ne pas prendre trop de temps.
Oui, là. Dans l'ANR, on a cette approche qui a été présentée. On s'intéresse aussi à la question de comment ces éléments sont en débat et à la question des controverses autour de la mise en place des dispositifs. Et puis, alors c'est pas le seul niveau d'interprétation à l'ANR, mais ces éléments nourrissent aussi une réflexion plus large sur cette question du zonage et cette question des hypothèses d'interprétation sur les effets des zonages patrimoniaux. Et donc ici, je présenterai 5 hypothèses assez générales qui sont en débat, qu'on a déjà discuté dans certains travaux et qui sont aussi en débat dans la question de l'ANR. Donc c'est d'abord cette idée qu'on retrouve dans d'autres types de zonages, qu'il s'agit bien de territorialiser savoir et pouvoir, qui a un lien spécifique entre un savoir de production, de connaissance sur la question du patrimoine, et puis un pouvoir qui délimite une zone, mais qui aussi lie des prescriptions très fines à cette question d'un savoir. Et ces zonages se donnent souvent comme la simple traduction territoriale d'un savoir. Sauf que lorsqu'on analyse ces questions, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire le zonage, la zone de protection du patrimoine n'est jamais le décalque clair de la simple connaissance des historiens ou des architectes ou des historiens de l'art ou des architectes spécialisés dans la question du patrimoine. Et donc entre ce savoir et ce pouvoir et la façon dont on fait passer la limite, dont on discute, il y a tout un élément de prise en compte, de localisation de ce savoir et de ses effets. Et donc ça, c'est aussi un élément qui me semble intéressant de saisir comme cela la question de la territorialisation de la question patrimoniale, qui n'est jamais directement l'application technique d'un savoir. Donc on peut s'intéresser au rôle de la limite, et au rôle de la limite en tant que ce qu'elle produit, et quels sont ses effets, et éventuellement comment elle est aussi en débat. On s'intéressait dans d'autres contextes à une hypothèse que certains considèrent un peu trop du côté de l'action publique, qui était de savoir quels sont les effets dans la vision de l'espace des zonages de l'action publique, des visions d'espace des habitants, des zonages, du langage territorial, donc le zonage, mis en place par l'action publique dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de l'environnement, dans d'autres types de domaines. Dans le domaine du patrimoine, on s'apercevait qu'en finalement, peu de personnes avaient une connaissance des limites du secteur sauvegardé à Tours, y compris des personnes qui avaient bénéficié de subventions au nom du secteur sauvegardé, au nom d'inclusion dans le secteur sauvegardé. Les gens savaient s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Par contre, certaines personnes avaient une connaissance très fine des limites. C'était des membres d'associations du patrimoine, d'associations contre patrimoine, qui avaient un discours sur les limites et sur ce que devraient être les limites, sur le fait qu'elles devraient être plus amples ou qu'elles devraient bouger éventuellement. Et d'ailleurs, ces limites bougent. Et comme l'a montré Mathieu, il y a eu une évolution des éléments patrimoniaux, avec des effets importants et des effets y compris d'inégalité devant l'impôt, puisque encore aujourd'hui, une partie des exemptions fiscales très fortes qui sont présentes à l'intérieur du secteur sauvegardé ne sont pas présentes de l'autre côté de la limite. On peut dire aussi, et ça c'est une hypothèse très générale sur laquelle on pourra revenir, pour reprendre ce qu'avait proposé Marc Guillaume, c'est d'utiliser l'idée que c'est ce que font ces secteurs s'ils stéréotypent des objets spatiaux. Alors stéréotyper aux deux sens du mot, intégrer dans un type, mais aussi dans l'usage de la typographie, c'est fondre dans une page compacte. Ce qu'on faisait avec des caractères mobiles du typographe, lorsqu'il formait une page compacte, ça s'appelait stéréotyper. Et donc ce que produisent les zonages patrimoniaux, c'est bien prendre des éléments qui sont des éléments séparés, des éléments éventuellement évalués pour leur qualité patrimoniale les uns les autres, et les fondre dans quelque chose de nouveau qui est ce centre historique patrimonialisé, qui a une valeur en tant que telle, indépendamment d'ailleurs de la valeur de chacun des éléments, et qui tend, soit symboliquement, soit réellement, à diffuser la valeur patrimoniale sur tous les éléments qui sont à l'intérieur de la limite, à tel point que certains types de travaux, une grande partie des conflits patrimoniaux, ont à voir avec des travaux autorisés par l'architecte des bâtiments de France dans le secteur sauvegardé, alors même que des groupes disent « l'architecte des bâtiments de France fait n'importe quoi, puisqu'on est dans une zone patrimoniale, on ne devrait pas autoriser tel type de bâtiment ». Exemple, le nouveau bâtiment des studios, par exemple, à Tours, mais on en trouve des tas d'exemples. Donc, les qualités qui ont conduit à la création de la zone, qui sont une généralisation de la qualité de certains des éléments, sont ensuite diffusées symboliquement sur l'ensemble de la zone. Ça me semble un élément important. Dire qu'il s'agit de qualification juridique de l'espace, mais ça, c'est assez clair, mais en même temps qu'il s'agit d'une façon, en prenant au sérieux le droit, dont le droit se dote d'une définition territoriale pour saisir un certain nombre d'éléments. Donc là, on peut aussi rentrer en débat avec nos collègues juristes, mais surtout aussi avec la sociologie du droit sur ces questions-là, mais je passerai assez rapidement, et que donc il y a bien quelque chose, on peut observer quelque chose comme la construction juridique et institutionnelle d'un nouveau type d'espace urbain, le centre historique, puisque le centre ancien n'était pas historique ni même patrimonialisé, c'était l'ensemble de la ville, et on reviendra sur cette question du devenir des espaces patrimonialisés. En conclusion, quelques éléments complémentaires sur la notion d'instrument d'action publique qui a été développé par Mathieu.
Oui, alors on a montré donc que les zonages définissaient un ordre spatial, notamment en le qualifiant juridiquement l'espace, mais aussi symboliquement. Mais quand on sort un peu de ce cadre d'analyse vraiment juridique qui est centré autour des effets de la règle, et si on considère que tous ces outils sont à disposition quelque part des acteurs pour qu'ils s'en saisissent, parce qu'ils ont des propriétés spécifiques et qu'ils ne sont pas forcément obligatoirement mis en place par tout le monde, il devient donc possible de les saisir comme des marqueurs d'un jeu d'acteurs et de stratégie patrimoniale des acteurs. Et donc dans ma thèse que j'avais menée entre 2007 et 2012, j'avais essayé de caractériser ces jeux d'acteurs-là en choisissant d'analyser trois villes du Val-de-Loire, donc c'était Tours, Orléans et Angers. J'en dirai pas grand-chose aujourd'hui, mais l'idée de la recherche était d'essayer de retracer les temporalités de l'action patrimoniale dans ces trois contextes et montrer comment ces zonages patrimoniaux ont été des outils au service de stratégies d'acteurs à un moment donné. Et à un moment T, puisque chaque effet ayant ses instruments et ses effets qui lui sont propres, ça détermine en partie le choix des acteurs. Donc par exemple, alors ici donc à Tours, on voit, je ne sais pas si les gens sont très clairs, mais on voit comment on est passé d'un îlot expérimental entouré en bleu, puis en vert, à un secteur de restauration, enfin au secteur sauvegardé, et à l'élargissement du secteur sauvegardé au fur et à mesure du temps par différents acteurs. Et sur la diapo d'après, là on est sur en fait le périmètre d'une zone de protection du patrimoine en gris clair qui vient suspendre les périmètres des abords des monuments historiques enfoncés, c'est-à-dire que tout ce qui est enfoncé n'a plus d'effet juridique sur l'espace, et ça répondait à une stratégie des acteurs locaux d'essayer de rationaliser ces périmètres de protection des monuments historiques en installant un zonage patrimonial fondé sur des limites beaucoup plus claires, avec un règlement négocié et surtout visible aussi par les habitants. C'est-à-dire que le règlement, il est à la disposition de tout le monde avant qu'on dépose son dossier d'urbanisme. Donc on voit aussi, au-delà des effets juridiques, comment les zonages patrimoniaux viennent reconfigurer des relations entre les acteurs, puisque dans ce cadre-là, on est bien sur un document négocié. Donc ça veut dire que les acteurs discutent, négocient, essayent de trouver une position commune autour d'un périmètre et d'une limite, ce qui n'est pas le cas à l'occasion des abords des monuments historiques. Donc je ne donnerai pas d'exemple spécifique sur les trois terrains, mais juste terminer en disant que J'avais essayé de montrer, en tout cas dans la thèse, l'importance des effets des zonages patrimoniaux. Et pourtant, on peut avoir, ce que disait un peu Patrice dans les hypothèses, on peut avoir une conclusion un peu contre-intuitive, parce que l'évolution de ces trois centres anciens, Tours, Orléans et Angers, est relativement proche. C'est-à-dire que dans tous les cas, on a eu des politiques de restauration de façade. Dans tous les cas, on a eu une piétonnisation des centres anciens, des opérations d'amélioration de l'habitat. Des rues pavées qui se sont refaites un peu partout. Autrement dit, zonage patrimonial ou pas, puisqu'on a un cas qui est Angers sur lequel on n'a pas de zonage patrimonial jusqu'à aujourd'hui. Là, ils commencent à en mettre un en place, mais il n'y avait rien de spécifique à part les abords. Donc zonage patrimonial ou pas, il semble bien que ces espaces centraux anciens sont considérés comme du patrimoine et répondent à une sorte de code, enfin des sortes de codes communs, de standards, c'est fini, t'inquiète pas, de standards dans leur aménagement, indépendamment même des stratégies développées en matière de planification urbaine par les acteurs. Je m'arrête et on est bon. Et non.
Et simplement trois éléments pour le débat dans le temps qu'il nous reste, qui est imparti. Question sur le devenir des espaces patrimoniaux. Donc vous avez compris que ce qu'on appelle ici les espaces patrimoniaux, ce sont les espaces patrimonialisés, puisque l'idée d'espaces patrimoniaux non patrimonialisés, dans notre optique, n'aurait pas de sens. Mais c'est peut-être un élément qu'on pourra débattre. Une question plus liée à nos projets, c'est est-ce que la rhétorique du projet remet en cause la question de la généralisation des zonages, ou même est-ce qu'on va vers des choses qui seraient des prescriptions fines lot par lot, avec l'utilisation de SIG par exemple, qui rendraient caduque aussi la question du zonage dans le cas de certains PLU. Mais ça, c'est un élément général. Plus généralement, si on peut dire comme ça, est-ce qu'on observe la généralisation ou la fin des qualifications patrimoniales de l'espace ? Parce que l'extension de la prise en compte de ce qui est appelé patrimoine dans les PLU, la multiplication des prescriptions sur des bâtiments, peut viser aussi à appliquer à l'ensemble du territoire des prescriptions qui seraient des prescriptions de qualité d'insertion dans le contexte et qui mettraient fin peut-être à la génération du... Alors, est-ce qu'on assiste donc à une généralisation ou à la fin de ces qualifications patrimoniales de l'espace ? Ce qu'on a vu ici, c'est bien la mise en place d'une nouvelle catégorie d'espace, donc ce centre historique protégé, avec une mode de régulation particulière, avec des acteurs particuliers, avec des limites valorisées et inscrites dans le paysage urbain, dont on peut retracer l'historicité. Et on peut s'apercevoir que cette façon de traiter les espaces centraux est assez récente. Donc on peut penser cette historicité, mais est-ce qu'on est capable de penser la possibilité de l'obsolescence de la question patrimoniale et des espaces patrimoniaux? Une boutade qu'il ne faut pas prononcer devant des architectes des bâtiments de France ou des spécialistes, hein, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand protéger? Jusqu'à quand protéger la place Plumereau telle qu'elle est aujourd'hui? Alors que cette place Plumereau telle qu'elle est aujourd'hui a déjà été reconstruite souvent en termes d'intention. Donc jusqu'à quand? Alors même que l'ensemble de la politique du patrimoine, elle a au mieux, si on va chercher loin, 80 ans. Peut-être. Donc jusqu'à quand peut-on penser à l'obsolescence simplement pour des questions de coûts, d'évolution, etc., mais pas forcément de coûts d'ailleurs publics. On peut aussi analyser le rapport entre dynamique patrimoine et dynamique urbaine. Dans certains contextes, le problème, c'est la survalorisation des questions patrimoniales. Hein, dans l'île de la Cité, le problème des ABF, c'est de savoir combien de piscines on peut faire en sous-sol avec de l'argent des grandes fortunes du monde qui gardent la façade et qui creusent. Dans d'autres villes, le problème, c'est la déprise. C'est la déprise de la ville et la déprise patrimoniale. Donc le rapport entre patrimoine dynamique urbaine, patrimoine et spécialisation de certains types d'activités de nuit, de bar. Donc certains disent qu'on pourrait identifier une nouvelle crise des centres. Il y a des rapports aujourd'hui d'ailleurs, qui parlent des crises des centres des petites villes. Obsolescence possible dans le regard à partir de la notion de transition énergétique ou écologique sur la question des bâtiments patrimoniaux, et la possibilité de cette obsolescence est possible. Et puis on pourrait aussi se poser la question, et c'est une question qu'on pose, c'est de quoi le patrimoine est-il le nom ? Et j'arrêterai là-dessus, puisqu'en fait dans une grande partie des débats que l'on observe dans cette cadre plus patrimonial, on parle de prescription patrimoniale, etc., il me semble que ce que l'on observe, c'est plutôt une passion pour l'existant et une volonté de ne pas toucher à rien. Mais c'est peut-être, je ne suis pas sûr que l'ensemble des membres de l'ANR plus patrimonial seraient d'accord avec cette question-là. Donc, s'agit-il donc du patrimoine ou d'une simple passion pour l'existant ? J'arrêterai là.